Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Au sommaire aujourd'hui, un roman médiéval sur les croisades, une rencontre entre deux grandes comédiennes et une histoire de hasard. C'est un roman très étonnant, une fresque incroyable qui va probablement séduire un très large public. Franz-Olivier Gisbert raconte à sa manière l'époque des croisades et des guerres de religion qui font écho à nos conflits d'aujourd'hui. C'est une très belle rencontre que nous avons organisée pour vous. Les comédiennes Brigitte Fossé et Catherine Salvia ont participé à un livre complètement improbable, une triple conversation sur le langage, l'art et la vie. Elles sont toutes les deux sur notre plateau. Et puis nous parlerons du hasard qui guide notre vie. Faut-il se laisser porter par les signes du destin ou par le hasard, tout simplement ? Décryptage avec l'auteur belge Valérie Cohen autour de son nouveau roman.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et quatre libraires sont en multiplex comme d'habitude à travers la francophonie. Bonjour Déborah Damblon.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes en pleine forme, vous représentez la Belgique et vous êtes libraire à Bruxelles dans la librairie La Licorne. Billy Robinson est au Canada, libraire à Montréal, librairie de Verdun. Laura Sanchez représente la Suisse à Genève dans la librairie du Boulevard. Bonjour à vous deux.
Bonjour Emmanuel.
Le son de la Suisse et du Canada en même temps, c'est la magie de la radio. La magie de la radio qui s'affranchit comme ça du vaste océan qui les sépare. Bonjour Grégoire Courtois.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes un océan à vous tout seul, vous êtes la terreur des auteurs, libraire à Auxerre, dans la librairie Oblique. J'ai un mauvais pressentiment aujourd'hui avec vous. J'ai l'impression que vous êtes un peu guerrier en croisade.
Je suis pas le seul, c'est l'impression.
Ah bon? Je sais pas.
Ah bah, on va voir avec les livres de nos amis.
Très bien, allez, on verra ça tout à l'heure, suspense. Merci d'être avec nous tous les quatre. Bonjour Brigitte Fossé.
Bonjour Emmanuel.
Merci beaucoup d'être avec nous. On commence toujours cette émission par une histoire, une anecdote personnelle étonnante racontée par l'un de nos invités. Mais je vais commencer, si je peux me permettre, par une petite histoire. Je vais vous raconter pourquoi vous êtes là. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière, je suis tombé sur Internet sur une vidéo qu'on avait enregistrée tous les deux. À la fin d'une autre émission de radio pour France Inter, c'était un été, il y a 3 ans à peu près, et je vous avais demandé de répondre à un questionnaire de Proust, en studio, avec une petite caméra que je tenais. Vous vous souvenez de ça ?
Oui, très bien.
Je vous ai trouvé dans cette vidéo lumineuse, généreuse, magnifique, et le lendemain, je tombe sur le livre dont nous allons parler, par hasard complètement, qui arrive sur mon bureau. Il est complètement étrange ce livre-là, publié par un petit éditeur, mais je m'aperçois que c'est exactement l'illustration de ce qu'on avait fait en vidéo. Alors je me suis dit, voilà, avec Catherine Salvia, si elles viennent toutes les deux, on peut reproduire ce moment-là.
Ah, ouais. C'est drôle.
Alors allez-y, quelle est
votre
histoire ?
Il n'y a pas de hasard, comment vous dites, vous déjà ?
Il n'y a pas de hasard, vous l'avez très bien dit.
Votre histoire, Brigitte Fossé.
Alors c'est une histoire vécue par moi dans l'Anse Lazio, qui est la plus grande Anse dans les îles Seychelles. J'ai l'habitude de nager très loin au large et tout à coup, je suis en harmonie avec l'univers et je chante avec la même liberté que dans ma salle de bain. Et je nage et c'est bon, et c'est voluptueux, c'est... Oh, je suis en plein milieu de l'Anse tout à coup, je suis très très loin, je suis au moins 1 kilomètre des rives. Qu'est-ce que je fais là? Je me retourne, qu'est-ce que je vois derrière moi? Je vois des milliards de petits poissons de toutes les couleurs.
Ah bon?
Bleu, rouge, turquoise, vert vif, jaune étincelant. Mmh. Ils me suivaient au rythme de mon chant. Je me repars en chantant et je me dis, mais j'ai quand même peur, s'ils fonçaient tous à la fois sur mes fesses, il me resterait plus de fesses, bien que j'en ai trop évidemment, mais quand même, s'ils fonçaient tous sur moi à ce moment-là, qu'est-ce que je vais devenir? Je me retourne, il n'y en avait plus un seul. Donc, c'est-à-dire que la peur n'engendre pas l'harmonie. La peur n'engendre pas la rencontre. Il faut être en harmonie avec soi-même, avec l'univers, pour rencontrer les gens.
Vous les avez fait fuir.
Oui, en fait, j'ai fait une expérience scientifique.
Mais c'est vrai, cette histoire, vraiment ?
Oui.
Oui.
Oh, bah, je veux pas inventer un truc pareil. Mais
je sais pas. Oui, c'est comme, il y a des gens qui parlent aux poissons, hein, qui se mettent au milieu du lac, là, qui agitent un peu les mains, qui parlent un peu, et tous les poissons arrivent. C'est connu. Hein, ça.
Bon, vous êtes avec Catherine Salvia, qui a plein d'histoires. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Plein d'histoires, on verra tout à l'heure. Hein. Il paraît que vous avez plein d'anecdotes, vous le dites dans le livre. On verra ça ensemble. Brigitte Fossé et Catherine Salvia sont dans la librairie francophone cette semaine. Il ne peut pas s'empêcher de parler, vous venez de l'entendre. Bonjour Franz-Olivier Gisbert.
Bonjour.
Comment allez-vous, Franz ?
Très bien.
Bien. Votre nouveau roman, Belle d'amour, nous raconte une fois encore un pan de l'histoire de France. En 1246, Tiffany part d'Anjou pour aller à Paris, seule, après l'exécution de ses parents, qui ont été tués parce que cathares. Ils sont morts à cause de leur religion, parce qu'ils n'ont pas voulu la renier.
Absolument. C'est une longue marche, c'est pas un roman d'initiation du tout, mais elle va monter à Paris, et à Paris ça sera pas terrible, ce qu'elle va trouver, elle va s'enfuir, elle va épouser un bourreau, elle sera elle-même bourrelle, c'est-à-dire femme de bourreau, c'est un métier qui existait, parce que les hommes tuaient les hommes et les femmes, et puis après elle va aller dans cette espèce de grand mouvement qui naît un peu de nulle part, qu'on appelle les croisades, et elle va participer à la 7e et après d'ailleurs à la 8e croisade de Saint-Louis, parce qu'elle va rencontrer Saint-Louis, elle deviendra une des suivantes de Saint-Louis, parce qu'elle a beaucoup de qualités. Elle a été pâtissière, herboriste un peu, elle est guérisseuse. Vous voyez, donc, à travers son regard, on va vivre la 7e et la 8e croisade. Mmh. Et comme c'est un personnage mystique, un peu hésitant, qui est très courageux à la guerre, hein, dans la bataille, il est toujours au premier rang.
Louis IX,
le reste du temps, Louis IX, il hésite, et il balance, et puis il aime pas les carnages non plus. Donc, finalement...
Sauf qu'il ne fait rien, on va y revenir d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est une grande épopée, Franz-Olivier Gisbert, c'est très visuel. Dès le début d'ailleurs, on voit cette Tiffany qui se balade comme ça, qui arrive, qui est en chemin pour Paris, elle est avec un étourneau qui la suit, enfin c'est très beau, vraiment, il y a vraiment quelque chose d'assez magique.
J'ai souvent l'impression d'être un peintre quand
j'écris. Mais ça fait ça, ça fait ça, voilà, tout ça, à fait, pas toujours, pas toutes les pages.
Ah
mais...
bah non, parce qu'il y a des moments, il y a des moments évidemment où il y a de l'action, parce que j'aime les rebondissements, et
c'est
j'aime
ça. Que ça bouge. Mais il y a des tableaux comme ça.
Oui c'est ça, par exemple, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur Paris au Moyen-Âge, c'est juste... sublime, quoi, ce qui se passe. Enfin, en même temps, il y a des choses atroces, tout est sale, enfin, c'est une ville très, 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 très sale, mais il s'y passe aussi des belles choses.
Et on découvre avec ce roman toute la décadence du monde qui commence à se dessiner, et qui commence à dessiner, finalement, ce que seront les siècles à venir. C'est
tout
très troublant, ça.
Tout à fait. Puis vous avez la montée des religions avec à peu près les mêmes thèmes qu'aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que l'histoire avance, les années passent, mais ce sont toujours un petit peu les mêmes débats, d'une certaine façon.
On va donner la parole à l'un de nos libraires, première libraire suisse, qui a lu votre roman, Franz-Olivier Gisbert. Laura Sanchez, qu'en pensez-vous ?
Eh bien, moi, j'ai trouvé ce roman passionnant. Cette belle d'amour a une vie complètement incroyable et survit à mille malheurs. Et puis, on apprend beaucoup à la lecture de ce livre, autant historiquement qu'en vocabulaire savoureux. Vous mettez à chaque fois la traduction, mais les mots sont magnifiques. Et puis, ben, j'ai apprécié votre style très libre, en fait. Vous changez de narrateur et d'époque au fil du texte. Et ça, c'est assez surprenant, c'est très bien.
Oui, dans le choix des mots aussi, on est vraiment là, hein, dans l'époque médiévale.
Oui, c'est vrai que j'ai utilisé, il y a deux narrateurs, il y a un tout petit narrateur qui compte pas beaucoup, qui vit à Marseille.
Oui, et contemporain en 2016.
Je suis toujours un peu gêné parce qu'on dit que c'est moi, mais c'est pas absolument pas. On n'a aucun rapport, sauf qu'il habite ma maison pratiquement.
Ouais, il y a des ambiguïtés.
J'habite à Marseille là. Mais oui, mais... Oui,
c'est ambigu.
Quelques
points. On en parlera dans la deuxième partie. C'est ambigu, c'est très ambigu.
De toute façon, je suis ambigu.
Vous êtes ambigu.
On ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment, disait François Mitterrand dans une fausse citation qu'il avait lui-même inventée et qu'il attribuait faussement au cardinal de Bernice.
On va écouter le son du monde de la semaine, Franz-Olivier Gisbert. Le principe, une musique habillée d'une voix. Cette voix va lire un extrait de votre roman. Celle qui a accepté de lire, elle est juste à côté de vous, c'est Catherine Salvia, de la Comédie Française.
Oh là là.
Honoraire, ex.
Et ex, oui,
honoraire. Enfin, quand même.
On garde le titre, quand même.
Oui, quand même.
On garde le titre. Elle va vous lire cet extrait sur une musique du Moyen-Âge. Voici un son du monde, cette semaine, médiéval.
Quand je suis entrée à son service, j'ai tout de suite aimé Louis IX. Comment ne pas l'aimer ? Toujours en vue, disons. Il était simple, si fragile. Je ne lui trouvais qu'un seul défaut, il était sale, comme le furent tous les rois de France. Chez ces gens-là, c'était s'abaisser que de se décrotter ou de se débarbouiller. Plus préoccupé par la pureté de l'âme que par la pureté du corps, le futur Saint-Louis sentait le bouc, l'écurie. L'aisselle, la mortaille. La même odeur que ses prédécesseurs ou ses successeurs, fussent-ils pomponnés. Chez Louis IX, nulle ombre d'un vice. Fort avec les puissants et faible avec les petits, il était aussi humble dans la victoire que solide dans la défaite. Le roi des Francs croulait sous les vertus, au point que ses pas semblaient souvent s'y embourber.
son du monde médiéval. C'est une première dans la librairie francophone. Catherine Salvia, qui lit Franz-Olivier Gisbert. Ça vous fait rire, Franz?
Ça me fait pas rire, non, parce que j'étais très ému. J'ai le trac, là, je sais pas pourquoi. Mais c'est une émission que j'écoute. Ouais. Et j'aime beaucoup l'idée de, justement, de parler de toutes les littératures, puisqu'il y a une littérature française, comme on dit. Mais enfin, la littérature française, elle peut être aussi bien canadienne, exactement, québécoise. Ouais.
Et enfin, le croisement avec des artistes.
Même américaine, parce qu'il y a des Américains qui parlent français, dans le Maine ou en Louisiane. Et donc, c'est vrai que je suis comme ça, je suis un petit peu impressionné, je suis un petit peu un bleu là pour le soir.
Bon, c'est vrai qu'en tout cas, ce Louis IX, c'est un personnage incroyable. Alors, il est sale, comme le disait, enfin, comme vous l'écrivez, parce que Catherine Salvia ne fait que lire.
Attention, parce que les croisades, parmi les effets bénéfiques des croisades, oui, les échanges commerciaux de toutes sortes que ça a donné, les croisés ont appris la propreté. Ça, ça a mis du temps, hein. Mais puis les rois ont toujours eu un statut particulier, parce que je crois vraiment que le père Louis XIV, notamment, puait particulièrement. Mais au retour des croisades, ouais, ils sont arrivés avec des bonbons,
ça
des
choses, un petit
des
peu,
choses qu'on ne connaissait pas, et notamment la propreté.
D'accord. Alors, c'est vrai que, du coup, il est, c'est une sorte de tête brûlée, parce qu'il va mettre en marche les 7e et 8e croisades, et puis, en même temps, il arrive à regretter des horreurs, des massacres, commis notamment en Égypte par son armée. Il le regrette, mais il ne fait rien.
C'est ça. Exactement. C'est-à-dire, c'est comme un spectateur. C'est-à-dire, il gueule, hein, quand même. C'est-à-dire, il fait rien, il hurle. Mais on sent qu'il a pas de pouvoir. Pourquoi? Parce que c'est le Moyen-Âge. C'est-à-dire que chaque petit seigneur avait son pouvoir. Et les mots du Moyen-Âge sont restés parfois jusqu'ici. Et par exemple, à Marseille, il y a ce petit mot de foutimassé que j'adore, qui veut dire fatigué, qui vient directement du Moyen-Âge et qui est toujours resté. Mmh. C'est-à-dire, vous entendez de temps en temps dans les bars, je suis tout foutimassé ce matin.
Alors, Marseille, justement, parce qu'en parallèle, il y a cet écrivain qui nous raconte cette histoire depuis la ville de Marseille. Il est confronté, lui, à ce que nous avons tous vécu ces 3 dernières années, à savoir le terrorisme, la violence, et il s'interroge sur l'islam, sur le terrorisme. Et donc, en parallèle, comme ça, on a ces deux histoires. À la fois celle du XIIIe siècle, avec votre personnage, Tiffany, avec ce roi Louis IX, complètement, que vous nommez d'ailleurs le révolutionnaire à couronne, c'est très drôle ça. Et à côté de ça, un personnage très contemporain qui a une vraie réflexion sur la vie, sur ce qu'on vit.
Oui, qui est un peu faible, hein, qui fait très attention, oui, au politiquement correct,
un peu lâche,
pas du tout provocateur, un petit peu lâche. Oui. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que je me reconnais pas tellement lui. En même temps, je me reconnais par d'autres traits, parce que moi, c'est pas que je suis courageux, c'est pas ce que je voulais dire. Je suis inconséquent et voilà, imprévisible, tout ce que vous voulez. Mais je me sens pas là, je me sens plutôt pas responsable ou irresponsable, si vous voulez. Mais donc ce personnage, il permet aussi d'adoucir un peu le propos. C'est-à-dire de relativiser. C'est important de relativiser. Moi, je vis à Marseille, une ville que j'adore, où on m'explique toujours qu'il y a du terrorisme partout, l'insécurité. Enfin, faut voir à Paris comment on parle de Marseille. Et je vis dans une ville où tout le monde, je veux pas dire s'aime, je suis pas bête à ce point, mais enfin, d'abord, quand il y a des problèmes, il y a des confrontations, on se dit les choses. À Paris, on se dit pas, on se fuit, on se parle pas. Et ici, à Marseille, on se parle, on s'engueule. Vous voyez, on s'engueule à la Marseillaise, c'est jamais grave. Et d'ailleurs, j'ai même une formule, j'ose le dire, c'est très politiquement incorrect, mais c'est vrai que la burqa à Marseille, d'une certaine manière, elle est moins choquante que dans d'autres villes de France. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a quelque chose à Marseille qui n'est jamais sérieux.
Alors justement, le décalage, on va voir avec nos libraires, les deux autres qui ont lu votre roman, Franz-Olivier Gisbert, roman Belle d'amour, Cap sur la France, avec un libraire réputé méchant, mais là plus encore, il est énervé. Il a été énervé en lisant ce livre.
Plusieurs choses. D'abord, effectivement, vous avez parlé vaguement de la langue là ici. J'ai trouvé ça complètement anachronique. Ça m'a vraiment dérangé, ces choses qui arrivaient, ces mots de vocabulaire médiéval. Parce que bon, la langue du XIIIe siècle, bon, on sait déjà que c'est déjà très très compliqué à lire.
C'est drôle.
Ça fait un peu gadget.
Mais pourquoi les correcteurs de grammaire, qui sont quand même des gens très sérieux, m'ont dit, mais est-ce que c'est vraiment la peine de
faire des notes, ça c'est sûr.
Parce qu'en fait, on comprend instinctivement, mais pas toujours, parce qu'il y a des problèmes. De temps en temps, c'est un très beau mot, on ne sait pas d'où il vient.
Enchaînez, Grégoire, parce que sinon, on s'en sort pas.
Je suis d'accord. C'est la première chose.
Je vais répondre un petit peu.
Ça, c'est le vieux français déjà qui m'a posé un problème. Et vous avez évoqué les deux narrateurs. Et effectivement, pour moi, il y a vraiment un problème de confusion entre les deux narrateurs. C'est-à-dire que cette Tiffany, elle nous parle de choses, effectivement, qui sont un peu anachroniques, qui ne correspondent pas, parce qu'effectivement, c'est le Olivier qui vient prendre la part sur le récit. Et du coup, parfois, on est complètement perdu et on ne sait pas exactement qui parle et à quel moment il parle.
Attendez, je suis désolé, parce que d'abord, il y a la femme qui parle. C'est l'essentiel du récit.
Oui,
de temps en temps, le narrateur parle. Et vous avez bien compris, si vous avez bien tout lu, c'est que le narrateur écrit pour la femme.
J'ai bien compris.
C'est-à-dire qu'il est le média par lequel la voix de la femme passe, un peu comme moi quand j'écris, c'est-à-dire qu'il entend des voix, il écrit sous la dictée de la, l'héroïne.
C'est ça qui rend la chose floue, parce que d'après moi, le XIIIe siècle et la situation du XIIIe siècle est absolument pas comparable à celle d'aujourd'hui.
Alors ça, c'est un autre sujet. Voilà. D'accord. Alors on va y revenir. Bougez pas.
C'est intéressant ça. C'est intéressant.
Alors déjà, tous les libraires lisent tous les livres ici.
Il faut parler avec dans des tiroirs, mettre les trucs dans les tiroirs.
Attendez, il y a Billy Robinson, Billy qui est au Canada.
Siècle, le tiroir 20e,
Billy au Canada n'est pas du tout d'accord avec Grégoire. Billy.
Non, en fait, moi, je trouve que c'est un roman, un très beau roman, en fait, aux effluves épiques, à mes yeux, là. Et je trouve que c'est une grande résonance d'actualité, avec l'actualité. Et c'est un voyage dans le temps qui m'a transporté. Et là où vous m'avez vraiment convaincu et touché, là, c'est bien sûr par cette histoire là, de Tiffany, un personnage féminin fort et dont les aventures là, portent à la réflexion. Alors, pour moi, c'est une réussite.
Bien. Alors, on va revenir sur ce sujet. Effectivement, Grégoire explique, d'une certaine façon, si j'ai bien compris, que cette guerre de religion n'est pas exactement la même et que cette mise en miroir vous a dérangé. Alors, c'est vrai, Franz-Olivier Gisbert, que dans ce livre, par exemple, vous développez des propos autour de la religion catholique et de l'islam. Vous dites que, contrairement au Christ, en tout cas, ce sont vos personnages qui disent ça, hein, contrairement au Christ, Mahomet était fait pour la gloire, en soulignant même la violence des musulmans. Vous écrivez des choses telles que les chrétiens sont incompatibles avec l'islam, ou encore dans cette guerre que mène l'islam depuis son apparition, nous ne sommes pas à égalité.
Oui, c'est-à-dire que c'est pas tout à fait la même religion. Ça ne vous a pas échappé. Et le christianisme, s'il y avait juste simplement Jésus, mais je suis pas le seul à le dire, tout le monde dit, c'est une religion qui serait peut-être pas allée très loin. En fait, c'est Saint Paul qui a poussé. Saint Paul est un guerrier. C'est ce que je dis. Jésus n'est absolument pas un guerrier. Saint Paul est un guerrier. Tout le monde l'a vu comme ça. De la même façon, l'islam, Mahomet est un guerrier. C'est-à-dire que Mahomet, c'est un peu le Saint Paul, sauf que c'est lui qui fonde cette religion. Mais donc, la violence, elle est évidemment chez Mahomet, comme elle est chez Saint Paul. C'est-à-dire, je refuse ça. Moi. La bien-pensance, le politiquement correct, franchement, on n'en peut plus. Il n'y a pas les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. Ouais, c'est pas le sens de ce roman.
Vous allez loin,
non,
parce que...
Mais c'est pas le sens de ce roman. D'accord, moi, j'essaie de dire
mais Mahomet, qui était un guerrier coupeur de tête,
guerrier.
Je
oui,
cite, et Jésus, bon, qui était juste...
C'est l'expression que j'emploie.
Qui égorge les gens.
Voilà. Et Jésus guerrier, je me demandais, mais c'est factuel.
Jésus qui était juste un coupeur de pain.
Et ça fait un raccourci. On ne peut plus aujourd'hui. Il y a certaines choses qu'on n'a plus le droit de dire, d'accord, même si elles sont exactes et sont dans tous les livres. Mm-hmm. Il y a par exemple un propos qui a énormément choqué, c'est quand j'ai dit qu'Israël était une terre juive. Ben oui, pendant 12 siècles, c'était les Juifs. Puis après, ils ont été envahis successivement par les Arabes, qui étaient donc des envahisseurs, par les Turcs, par les Romains, par les Perses, enfin tout ça. Ça, c'est des choses qu'on n'a pas le droit de dire. Par exemple, les Juifs, je vous signale, avant 1948, c'était eux les Palestiniens. Les Palestiniens qui habitaient la Palestine, c'était les Juifs. Bon, puis le vocabulaire a changé. Et maintenant, il faut dire, non, les Juifs ont envahi la Palestine. C'est pas vrai. Vous voyez, donc, moi, j'essaye de rétablir modestement, parce que c'est pas un essai, ce livre, c'est un roman, bien entendu. Et de temps en temps, il y a des personnages qui parlent, qui n'expriment pas forcément ma pensée, bien entendu.
Oui, bien sûr.
Attendez, il y a des choses dans le livre que je revendique pas du tout.
Pour être honnête avec vous, Franz, et surtout pour ne pas dénaturer votre texte, il y a effectivement un chapitre où, puisque vous parlez des Juifs, vous racontez qu'au XIIIe siècle, le roi Louis IX impose aux Juifs un signe distinctif. Déjà, au XIIIe siècle, ils sont obligés de coudre une roue de feutre jaune en haut du vêtement. Non. Ça nous rappelle évidemment la période nazie.
Bien entendu. Et puis vous avez même chose, je suis désolé de le dire aussi, les Omeyyades, je le mets dans le livre, face à cette magnifique Andalousie musulmane, et ben les chrétiens qui étaient là, d'ailleurs c'était la même chose pour les juifs, fallait laisser le passage devant un musulman qui passait, vous n'aviez pas le droit de l'attaquer si vous voulez, enfin il y avait mille choses comme ça, et puis vous n'aviez pas le droit de faire du cheval, parce que là vous seriez un personnage important. Donc tout ça, mais bien sûr, il faut tout dire. Moi je dis tout, alors c'est ça qui peut choquer.
Oui, mais pourquoi vous jouez sur l'ambiguïté, Franck ?
Je ne joue pas sur l'ambiguïté.
Si, parce que vous parlez de Marseille, vous partez de Marseille, et c'est passionné comme conversation.
Vous partez
de Marseille et vous habitez à côté de l'abbaye de Saint-Victor.
Oui, hein,
vous l'avez dit.
Comme le narrateur. Oui,
voilà, comme le narrateur. Oui,
oui. J'habite peut-être au même endroit d'ailleurs.
Et ce narrateur, il est passionné comme vous d'histoire.
Oui,
il est passionné comme vous d'analyse politique, d'analyse des religions.
Tout ça,
on se dit, c'est Franz-Olivier Gisbert.
C'est pas moi.
Et quand vous partez dans le roman, ça part sur des trucs, comme disait Grégoire, qui ont pu le choquer, parce que vous mettez en miroir deux époques et vous faites une comparaison.
Mais moi,
direct.
Je suis pas là pour choquer ou ne pas choquer. Moi, je suis un raconteur d'histoire.
Ouais.
Vous voyez, je suis un peu con, c'est-à-dire, c'est mon maître Julien Gagne qui disait toujours, quand on écrit des romans, faut essayer d'être bête. Vous voyez,
c'est qui,
se forcer.
Votre maître?
qui était mon maître, Julien Green, qui était aussi, d'ailleurs, oui, qui était aussi un peu ma mère, d'ailleurs, mon père, ma mère, tout ce que vous voulez. Et il disait toujours, mais il disait, faut, quand on écrit un roman, surtout essayer de ne pas être intelligent. Ouais. Les romans intelligents, on n'en peut plus. Et donc, c'est vrai que moi, j'essaye toujours de me laisser aller, de croire à mes personnages. Vous voyez ce que je veux dire?
Ouais, c'est vrai.
D'avoir, donc, je les aime.
On est avec eux complètement.
Ils, oui, voilà. Puis ils sont différents des uns des autres. C'est, Tiffany n'a rien à voir avec la cuisinière d'Himmler ou avec le, ça, c'est une femme, une vraie femme. En plus, c'est au Moyen-Âge. Une espèce de contradiction. Moi, je croyais que le Moyen-Âge, je savais pas que c'était ça. C'est-à-dire, quand on fouille l'amour courtois, c'est juste incroyable. C'est-à-dire, la modernité de l'amour courtois en plein Moyen-Âge.
Vous allez rester avec nous, bien sûr, pour continuer cette conversation, mais avec d'autres sujets. Votre nouveau roman, Belle d'amour, est paru aux éditions Gallimard. Merci beaucoup, Franz-Olivier Gisbert. C'est un grand roman, vraiment une vraie épopée qui a séduit nos libraires, sauf un. Vous l'avez juste en face de vous. Vous l'avez
très
entendu.
D'ailleurs.
Et à vous de vous faire une opinion, à vous qui nous écoutez à travers
le
monde.
C'est son droit de pas aimer.
Bah, évidemment, mais c'est le débat. C'est le débat culturel. Vous serez à Nice au Festival du Livre de Nice du 2 au 4 juin. Festival que vous soutenez, que je soutiens aussi puisque c'est ma ville. Voilà, vous le savez.
Et vive le Sud.
Et vive le Sud. Merci Franz. À suivre, une rencontre entre deux grandes comédiennes. Catherine Salvia et Brigitte Fossé sont sur notre plateau pour un échange sur la vie, la langue, le rapport aux autres et la religion aussi. Avant cela, voici le nouveau titre de Vianney.
Sur mon coussin comme un dessin, comme une tache, c'est ton mascara qui déteint quand on se fâche. Pour un café un peu mal fait, une bricole, quand on se bat, moi je voudrais qu'on en rigole. Si moi aimais-toi, blessez-moi. Si moi aimais-toi. Quand moi aimais-toi, blessez-moi. Quand moi aimais-toi. Si moi aimais-toi, blessez-moi. Si moi aimais-toi. Quand moi aimais-toi, moi blessé. Moi. Et les gens ne comprennent pas qu'on le supporte, que je me mouche dans tes bras, sois ma carotte. Prendre la peine de s'abîmer, faire des scènes au lieu d'aimer, et faire l'amour par dégoût du dégât. Yeah, yeah. Si moi aimais-toi, blessez-moi. Si moi aimais-toi. Quand moi aimais-toi, blessez-moi. Quand moi aimais-toi. Si moi aimais-toi, blessez-moi. Si moi aimais-toi. Quand moi aimais-toi, moi blessez-moi. Comme un dessin, comme une tache, c'est ton mascara qui déteint quand on se fâche. Et ce coussin d'ici demain, après l'orage, sera témoin que l'on sait bien tourner la page.
C'est le tout nouveau titre de Vianney, moi aimais-toi. C'est le titre, si, si, sur votre radio francophone.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS la première.
RTBF la première.
Ici Radio-Canada première.
France Inter.
Et après moi, aimez-toi, vous écoutez-moi, car toutes les semaines, nous vous emmenons dans la plus grande librairie du monde, avec des libraires qui vous présentent leur coup de gueule et leur coup de cœur. On commence avec un coup de quoi au Canada, Billy Robinson?
Mais en fait, c'est un coup de gueule. C'est basé sur une expérience que j'ai vécue dernièrement en librairie et qui m'a un peu surpris. Alors, une cliente qui vient de demander conseil sur mes derniers coups de cœur, qui me pose plein de questions bien précises, qui note, qui photographie, pour finalement me dire, ben, écoutez, je vais aller le chercher dans la grande surface le plus près parce que c'est un peu moins cher. Puis, je vais, mais en me remerciant parce que de toute façon, là-bas, il n'y a pas de service. Alors, merci beaucoup. Merci aux clients de nous faire confiance. S'il vous plaît, achetez chez nous si vous avez confiance en nous.
C'est affreux, cette histoire.
Il y a les connards aussi qui viennent regarder les titres pour les acheter après chez Amazon.
Bon, écoutez, Billy, je suis désolé pour vous. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Déborah Damblon pour la France. Pour la Belgique. Coup de cœur ou coup de gueule, Déborah? Comment ça, non?
Allez, un grand, grand coup de cœur pour se consoler pour une nouvelle collection jeunesse. Faut le faire, hein. Faire naître une nouvelle collection jeunesse sous la direction de Fabienne Blanchu aux éditions Le Duc Jeunesse, chapeau. Et puis, quelle collection? Parce que, en voilà une idée qu'elle est bonne, hein. On demande à des auteurs qui sont connotés adultes, avis à ceux que ça intéresse, de s'emparer de la jeunesse d'un personnage célèbre. Et devinez qui c'est qui ouvre la collection? Pas moins que Gilbert Sinoué avec Jeanne d'Arc.
Pas mal. Merci Déborah.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Brigitte Fossé et Catherine Salvia sont dans la librairie pour un livre inattendu, un ovni. La passion du verbe est paru aux éditions Onésime 2000, un petit éditeur du sud de la France, pas très loin de Marseille d'ailleurs. C'est un entretien à trois voix, vous deux, avec Marie Sénec, pasteur à Genève. C'est un peu fourre-tout, comme une discussion à bâton rompu. Le langage, l'écoute de l'autre, l'expression, les livres, le monde, tout y passe. Il y est très souvent question de religion aussi. Catherine Salvia, vous, la grande comédienne de la comédie française en horaire. Vous vivez à travers les rencontres et à travers le langage ?
Bien sûr, le livre, c'est l'ami, comme disait Brigitte tout à l'heure. C'est un ami, c'est une passion aussi. S'il n'y avait pas les livres, voilà.
Vous dites que vous n'avez pas fait de sacrifice pour arriver à ce métier-là.
Aucun
sacrifice ?
Oui, absolument.
Aucun ?
Non. Non.
Vous n'avez pas l'impression d'avoir... fait des efforts particuliers?
Non, j'ai cette chance-là. Voilà.
C'est vrai?
Oui, tout à fait.
Alors que vous, Brigitte, vous dites avoir dû renoncer à une vie quotidienne normale.
Oui, j'ai pas été une femme normale, comme dirait François Hollande, parce que j'étais jamais là.
Depuis toute petite déjà, en plus.
Depuis toute petite.
Le public vous a vu grandir depuis Jeux Interdits.
Oui, c'est ça. Et d'autre part, très souvent, quand j'étais petite, on m'envoyait à Cannes, chez mon oncle et ma tante. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai fait mon premier film. C'est à cause d'une absence de là où je vivais à l'époque, c'est-à-dire Tourcoing. Et après, quand j'ai eu 9 ans, on a quitté Tourcoing et on est arrivé à Paris parce que ma mère et ma tante et mon père pensaient que ce serait mieux pour mes études, etc. Ils n'avaient pas tort d'ailleurs parce que j'ai fait Hippocagne et Cagne avec passion. Après, j'ai commencé une licence de philo.
Catherine Salvia qui fait la grimace.
C'est pas comme nous.
Mais en même temps, si vous voulez... Je privilégie le contact direct avec les gens dans la vie quotidienne. Je trouve que c'est la plus grande richesse qui puisse exister.
Oui, sauf que vous aimez dire bonjour à distance, comme Brassens.
Oui.
Vous racontez ça. Vous dites que vous avez l'impression d'être envahi par le public parfois et que ce bonjour, cette mise à distance, ça vous rassure un peu. En tout cas, ça vous sied mieux.
C'est pas une mise à distance, c'est au contraire une espèce de compréhension. Je vis ma vie lambda aussi. C'est-à-dire que je suis un peu déchirée entre les moments où je dois me produire, dire des grands textes, etc. Et les moments où je peux vivre normalement, c'est-à-dire comme lui, il va à Marseille, ben moi je vais de l'autre côté du trottoir et je dis bonjour, bonjour. Parce qu'il faut pouvoir vivre pour pouvoir ensuite donner quelque chose. Mmh. On ne peut pas être tout le temps en train de se produire ou de raconter ce qu'on fait, c'est impossible.
Bon, on va voir du côté de nos libraires qui ont lu ce livre très surprenant. Canada ou Belgique? On commence par qui, Catherine?
Canada.
Loin. C'est loin. Oui. Billy Robinson, loin de vous, parce que près de nous.
En effet, ben écoutez, moi, je veux d'abord mentionner que je suis reconnaissant pour l'opportunité qui m'a été donnée là, de lire ce livre-là pour l'émission. Je ne l'aurais probablement pas lu, en fait. J'aurais préféré, par contre, un texte présenté sur une forme de correspondance plutôt qu'une proposition entrevue. Mais je dois avouer que malgré la proposition inspirante du résumé du livre, j'ai rapidement compris que j'étais malheureusement pas le public cible.
Très bien. Ils font des signes, des gestes pendant que vous parlez avec François-Olivier Gisbert. Des pouces levés, des pouces baissés. C'est entre les deux.
Non,
c'est
parce
mitigé.
Qu'on aime beaucoup sa voix et sa sincérité, son authenticité. Alors, on fait pouces
lever.
Ah oui, c'est bien. Super.
Déborah Damblon, en Belgique, qu'en pensez-vous?
Mais mesdames, sans vouloir être désobligeante, en me plongeant dans votre ouvrage, je me suis demandé dans quoi j'étais tombée. Mais je dois dire qu'au fil des mots, puisque de mots il est question, certaines paroles de chacune d'entre vous ont fait écho en moi. Et puis il y en a qui m'ont touchée, il y en a qui m'ont interpellée, il y en a même qui m'ont fait réfléchir. Et finalement, j'ai trouvé qu'on touchait à l'universel de la langue telle que nous l'aimons tous.
Oh bah, j'ai la mâchoire qui se décroche de bonheur.
Ça va, c'est pas mal.
Catherine Salvia. C'est positif.
Mais oui, c'est positif.
Non, ce que je voulais simplement vous dire, madame, c'est que les conditions dans lesquelles nous avons, entre guillemets, écrit ce livre sont des conditions un peu particulières. L'éditeur Serge Sarkissian nous connaissait toutes les trois. Il a voulu nous réunir pendant 3 jours et nous faire parler de ce qui nous tenait à cœur. Et en fait, moi, j'aime pas parler de ce qui me tient à cœur. Je trouve que c'est un jardin secret. Mais j'ai une grande passion pour Catherine Salvia et j'avais envie de connaître Marie Sénec parce que j'en entendais beaucoup parler. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une rencontre avec des débats et des chapitres qui étaient préparés. Et ensuite, on nous a donné le bouquin, soi-disant, qu'on n'avait pas écrit, mais qu'on avait parlé. Mmh. Donc, le mot parole est absolument juste. Et j'ai corrigé ou rajouté des trucs.
D'accord.
Et c'est devenu un livre comme ça. Donc, c'est un peu un ovni, vous avez raison.
Oui, c'est vrai que c'est un ovni. Et vous portez un regard sur le monde un peu désabusé, notamment vous, Brigitte Fossé, un peu résigné. Il y a des choses que vous ne supportez pas dans la vie, que vous voyez comme ça au quotidien, mais en même temps, vous ne savez pas quoi faire.
Résigné, désabusé, c'est pas tellement non ce qui me caractérise.
Ben non, c'est pour ça, ça m'a étonné, moi. Parce que vous dites, par exemple, il y a des gens qui crèvent de faim, des réfugiés dans le monde entier, dont 1 sur 2 est un enfant, le monde des réfugiés pour les enfants. C'est absolument invivable, et nous, on est là à ne pas savoir que faire.
Oui, c'est-à-dire que je suis révoltée par ma propre inaction, alors que nous sommes tous lucides, nous écoutons toutes les nouvelles, il y a de très belles émissions sur les réfugiés, sur les gens qui ont faim. Et donc, si vous voulez, on est au courant de tout. On peut pas dire qu'on n'est pas au courant. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On peut pas s'engager partout non plus, mais je pense qu'il faut choisir à un moment donné un truc secret pour lequel on participe à l'amélioration du monde. Je pense qu'on peut pas être heureux aujourd'hui si on participe pas tant soit peu à un tout petit peu d'amélioration du monde avec tout ce qu'on sait.
Catherine Salvia, vous êtes d'accord?
Il y a une publicité, je sais pas de quelle marque, à la télévision, où j'ai zappé comme ça. C'est un petit garçon qui met sa main comme ça, qui fait mais qu'est-ce qu'on peut faire? Bah oui, qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Bah, c'est pas à nous. Bon, voilà. On peut donner un euro de temps en temps. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je veux bien faire quelque chose, mais voilà. Et en même temps, je trouve que la grande liberté de la France, et qui est vraiment magnifique, c'est qu'il y a plein d'associations qui font des choses, et que quelque part, on a un peu l'impression que ce monde associatif, en posant toutes les vraies questions, a un peu bouleversé le monde politique, qui se pose moins les questions directes par rapport à ces choses-là. Mais en tous les cas, moi je suis d'origine chrétienne, j'aime toutes les religions, j'aime tous les grands textes fondateurs. Et c'est vrai que mon origine chrétienne me rend très proche aussi des autres civilisations qui souffrent. Et en même temps, j'ai lu le livre de Romain Rolland qui m'a vraiment beaucoup touchée, qui s'appelle La vie de Ramakrishna. C'est un très très beau livre qui raconte la vie d'un chrétien, d'un musulman et d'un hindouiste. Et ce Ramakrishna qui a vraiment existé est arrivé à la même extase, à la même luminosité au bout de ces 3 religions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la religion n'est pas une façon de faire de la politique, et c'est une façon de se relier au ciel et à la poésie, c'est autre chose. Et c'est de celle-là que j'aime bien parler.
Et d'ailleurs, vous regrettez hein, qu'en Occident, on ait perdu comme ça la faculté de s'abandonner à la méditation et à la contemplation.
Voilà.
Alors qu'en Orient, ça se produit beaucoup plus.
Et moi, j'ai lu beaucoup de choses donc de l'Orient, japonaise, indienne. Et je trouve qu'on a droit au rêve et qu'on a droit au rien. Je trouve qu'on a droit à être, à un moment donné, juste disponible, recevoir le ciel. S'il n'y a pas ces moments, il ne peut pas y avoir de renouveau et on ne peut pas y avoir de création.
Catherine Salvia, vous êtes croyante vous aussi, on le voit dans ce livre. C'est pour ça que c'est très étonnant, parce que vraiment, vous parlez beaucoup de religion comme ça, sans bride, pas seulement, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de filtre comme ça. Vous avez peur de la mort d'ailleurs? Vous pensez que c'est ça qui rend croyant, la peur de la mort, non?
Non, c'est horrible, mais je n'ai pas peur de la mort du tout. Alors là, vraiment. Oui. Non, je suis prête.
C'est vrai?
Oui. Ah oui, elle est formidable, elle a tout organisé à l'intérieur et à l'extérieur. Non, mais bon, de toute façon, on sait. On sait qu'on va partir. Heureusement, d'ailleurs, vous rendez compte le monde qu'il y aurait. Non
vous avez peur, vous, Brigitte, hein?
Moi, j'ai peur du jugement dernier.
Vous avez peur de la mort, vous le dites. Je l'ai lu.
J'ai peur de la mort parce que je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce qui va se passer après. Personne n'en est revenu.
Vous n'êtes pas tranquille.
Moi, j'ai lu un bouquin sur le tunnel de lumière, etc.
Ça, franchement, arrêtez.
Oh, oui. Tous ceux qui reviennent disent ça, en tout cas.
Bah oui, mais Catherine, oui, vous levez la main.
Non, parce que j'ai joué... circonstance dans les dialogues des Carmélites, elle a un petit texte sur la mort, c'est extraordinaire.
Qu'est-ce qu'elle dit?
Je n'ai jamais craint la mort, si peut-être il y a très longtemps, lorsque je ne savais pas ce que c'était. La vie m'a toujours paru assez amusante, je me disais que la mort devait l'être aussi. Oh, maintenant, je ne sais plus ce que je pense de la mort, mais la vie me paraît toujours aussi amusante. J'essaie de faire le mieux possible ce qu'on me commande, mais ce qu'on me commande m'amuse. Après tout, dois-je être blâmé parce que le service du bon Dieu m'amuse? On peut faire très sérieusement ce qui vous amuse, les enfants nous prouvent tous les jours, exactement comme on peut faire avec bonne humeur ce qui vous ennuie.
Catherine Salvia, merci. France Télévisée.
Qu'est-ce que c'est beau.
C'est beau, c'est Bernanos. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bernanos,
c'est génial. Voilà. Mais la religion est quand même la plus belle des choses quand elle reste dans l'intime.
L'intime, elle le devient jardin vite, secret.
Voilà. C'est vrai, ce que vous avez dit, c'est tellement juste. Oui. Le mysticisme, dans toutes les religions, c'est pratiquement la même chose. Ils se reconnaissent. Et en même temps, la religion, ça devient la chose la plus hideuse dès qu'elle entre dans le champ politique. D'où il faut la rejeter en permanence.
Bien sûr. Terminons avec cette phrase de Brigitte Fossé qui dit qu'un amour peut durer toute une vie. Et pour vous, Catherine Salvia, l'amitié, c'est l'amour sans geste.
Oui.
Alors ça, j'ai pas trop compris. Bah, pourquoi sans geste?
Parce que c'est crac-crac, il n'y a pas crac-crac.
Ah, crac-crac.
Bah, oui, bah, sans geste.
Donc c'est supérieur à l'amour. Ah.
Bien sûr.
Bon, je vous laisse à ce nouveau débat. Oui. Merci beaucoup, Brigitte Fossé. Merci infiniment, Catherine Salvia. La passion du verbe est parue aux éditions Onésime 2000. Une petite maison d'édition. Il faudra commander ce livre probablement à votre libraire indépendant si vous voulez le lire. Un livre inhabituel, presque bizarre, mais en tout cas avec une très belle rencontre entre ces deux grandes comédiennes. Merci à vous.
On parlait de Marie Sénèque, qui est la troisième dame.
Bien sûr, pasteur à Genève.
Qui a un talent fou et qui connaît les poètes et les prophètes comme personne.
Très bien, on est très en retard. Vous avez toujours votre journal intime, Catherine Salvia?
Oui, bien sûr, oui. Bah, évidemment.
Voilà.
Bien sûr.
Non, je voulais la poser, c'est tout. Oui, allons-y.
Bien sûr.
Oh là là, quelle émission. Dans cette plus grande librairie du monde, on part en Suisse. Laura Sanchez, coup de gueule ou coup de cœur?
Allez, un petit coup de gueule pour la route.
Allons-y.
Sur le temps parfois infini qui sépare une sortie de livre et sa sortie poche. Et là, je vous parle en fait surtout des livres à grand succès, où il peut se passer 2 ans, mais parfois plus, pour que la réédition en poche sorte. Et nous, libraires, peinons à cacher notre frustration d'être entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire entre ceux qui encaissent des ventes au prix fort et ceux qui attendent le poche pour se lancer dans la découverte. Courage et patience.
Courage et patience. Grégoire Courtois pour la France. Un coup de cœur, je crois.
Coup de cœur, absolument, au rayon des essais. Parce que, et là, je reviens sur le livre de François-Olivier Gisbert, puisque, effectivement, à plusieurs reprises, il est cité.
Non, mais vous creusez votre tombe.
Non, mais pas du tout. Non, mais c'est juste une petite précision.
C'est
parce
pas
qu'effectivement,
possible. Il s'enfonce.
Un petit moment où, à plusieurs reprises, est annoncé dans les légendes, etc., qu'il y a le sultan, ou en tout cas l'oriental fourbe. C'est souvent dit, effectivement, c'est une espèce de légende qui a couru dans les livres d'histoire pendant très longtemps. Je vous parle d'un livre qui s'appelle « La ruse et la force » de Jean-Vincent Olyndre, qui est spécialiste de la stratégie. C'est une histoire de la stratégie, de la guerre de Troie jusqu'à Daesh, et qui vous raconte à quel point l'Occident a aussi été très fourbe et que l'Orient pouvait faire usage de la force.
Ah oui.
C'est une superbe remise en
lumière.
C'est une superbe remise en lumière.
Vous êtes en train de dire qu'il faut lire ce livre-là et pas celui de François-Olivier Gisbert.
Les deux.
On dit la même chose.
Non, mais allez-y, France, défendez-vous.
Non, on n'attaque pas, là. Je dis la même chose que Olyndre.
Bon, La ruse et la force, c'est aux éditions Perrin.
Absolument.
La librairie francophone avec Franz-Olivier Gisbert, Brigitte Fossé, Catherine Salvia et Valérie Cohen pour un roman sur les hasards de la vie. Bonjour Valérie Cohen.
Bonjour.
Est-ce que le hasard guide votre vie, vous?
Le hasard, oui, mais surtout le hasard qui a du sens, les coïncidences significatives. Il y a une différence pour moi entre les hasards et les synchronicités.
Ouais.
Et une synchronicité, qui est un concept qui a été développé par Jung, disciple de Freud dans les années 30, est un événement extérieur qui vient répondre à un questionnement intérieur ou à un état d'âme intérieur. Et c'est comme si vous aviez un hasard, mais qui est porteur de sens, qui va vous interpeller au niveau émotionnel. Et oui.
Et qui va vous permettre
de
faire des choses. Voilà. Comme le livre qui me tombe sur le bureau avec Brigitte Fossé qui arrive en plateau. C'est ça, vous l'avez entendu cette histoire tout à l'heure. C'est ça, merci Valérie. On poursuit cette conversation autour du hasard après le tube francophone de la semaine. Voici la chanteuse belge d'origine anglo-égyptienne, Natacha Atlas, et cette reprise que vous connaissez tous. Merci à vous d'écouter la librairie francophone à travers le monde.
On est bien un peu de choses, et mon amie La Rose me l'a dit ce matin. Ce matin, la lune cette nuit a veillé mon ami. Moi en rêve j'ai vu éblouissant et nu son âme qui dansait bien au-delà de nuit et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. Bien peu de choses et mon amie la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a fait courber la tête et je sens que je tombe et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe. Déjà je ne suis plus. Tu m'admires.
La grande Natacha Atlas, mon amie la rose, reprise de Françoise Hardy sur ici Radio-Canada Première, RTBF la première de la RTS et sur France Inter.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et l'auteur belge Valérie Cohen est dans la librairie cette semaine pour son roman Le hasard a un goût de cake au chocolat paru chez Luce Wilkin. Ce livre est une histoire de famille, Valérie, avec ses secrets, ses recompositions, ses drames, ses douleurs. Il y a Adèle, une joyeuse septuagénaire qui a un cœur défaillant. Il lui reste très peu de temps à vivre, mais elle reste sereine, positive même. Elle a quelque chose à transmettre.
Oui, c'est une famille comme toutes les familles. Et puis Adèle se rend compte que la fin approche tout doucement et lorsqu'elle doit rédiger son testament, se dit qu'au-delà de quelques billets, liasses et bijoux, ce qu'elle aimerait vraiment transmettre aux gens qu'elle aime, c'est sa foi dans les signes du destin, ces petits hasards qui parfois jalonnent nos routes et nous indiquent la direction à suivre si on veut bien les écouter.
Il y a deux demi-sœurs aussi, Roxane et Sophie, qui sont très proches, mais qui se divisent sur l'aide ménagère de leur grand mère d'adoption. On ne va pas tout raconter parce que c'est un peu compliqué hein, comme histoire de famille, mais il y a cette aide ménagère qui tire les cartes.
En fait, sans dévoiler l'histoire, Adèle, aidée de son aide ménagère, va saupoudrer leur quotidien de fausses et de vraies synchronicités pour les inviter à se poser la question que je pose également à mes lecteurs. Est-ce que finalement le hasard existe et quand il croise notre route, qu'en fait-on ?
Alors pourquoi faut-il faire confiance au hasard, Valérie Cohen ?
Alors, je n'aime pas l'expression « pourquoi faut-il le hasard ?»
Vous avez raison, c'est vrai. Alors, dans quelle mesure peut-on faire confiance au hasard, Valérie Cohen ?
Alors, ce qui est très paradoxal avec le hasard, c'est que le hasard appartient au domaine public. Nous avons tous eu des hasards dans notre vie. Ouais. Et pourtant, c'est une expérience éminemment intime. Seuls nous savons si le fait d'avoir rencontré telle personne sur le quai de la gare alors qu'on avait rêvé d'elle et qu'on n'a plus vu depuis 20 ans est un hasard ou une synchronicité. À partir du moment où un hasard résonne en nous au niveau émotionnel, qu'il a une connotation affective, là il devient vraiment important pour moi. Mm-hmm. C'est une véritable boussole intérieure. Pour de nombreuses personnes, peut-être vous, les rêves font partie du quotidien et sont un outil utile. Mm-hmm. Eh bien, j'ai décidé dans ma vie en tous les cas que les hasards en font partie et que j'essaye de décoder le sens qu'ils ont.
Vous écrivez « Si nous sommes sur la bonne route, les événements s'enchaînent avec fluidité. Il suffit de suivre les signes et les synchronicités. »
Ce qui est très intéressant, je trouve, avec le hasard, c'est la manière dont vous avez lu la phrase et tiré de ce contexte, on pourrait croire que le hasard est s'en remettre à quelque chose de plus grand. Et ouais. Tout le monde met dedans
c'est
ce qu'il a envie
mystique,
de mettre.
Oui, ça peut être mystique. Oui.
Et en fait, au contraire, je trouve qu'à partir du moment où on s'intéresse au hasard, qui nous fait prendre conscience qu'il y a une autre réalité derrière ce qu'on peut voir, on ne se soumet pas à quelque chose. Au contraire, on est participant actif de sa propre vie et on peut décider d'aller dans cette direction-là ou une autre.
Mais vous pensez que chaque événement a un sens, comme vos personnages, comme l'un de vos personnages ?
Personnellement, je suis intimement convaincue que chaque rencontre que je fais, que chaque événement que je vis a un sens.
Tout ce que vous faites ?
Écoutez, je vais aller au supermarché tout à l'heure remplir mon frigo. Je ne suis pas sûre que le sens...
Catherine Salvia dit oui.
Alors oui, tout a un sens, certainement. Je pense aussi qu'il n'y a pas de différence entre l'intérieur et l'extérieur de ce qu'on vit.
D'accord. Bon, on va laisser la parole à nos libraires.
Oui, oui.
Vous avez peur, là, aujourd'hui.
Il faut bien.
La France ou la Suisse ?
Oh, la France !
La France, le plus compliqué. Grégoire Courtois.
Alors, moi, mon expérience de lecteur avec ce livre commence avec le titre, en fait, qui, il faut bien le dire, reprend des codes, en fait, hein, de romans, pour parler français, de romans qui font du bien. Donc, c'est un peu le type de code qui est. Donc, déjà, je sais que c'est pas pour moi, pour commencer.
Alors, ça commence bien.
En lisant, pas de surprise, effectivement, c'est un roman. Alors, je fais bien la distinction entre mes clients, mes lecteurs et moi, hein, parce que c'est le type de roman que je pourrais tout à fait vendre, et beaucoup même, avec des gens, tout un public qui peut apprécier ça. Donc moi, par contre, je suis complètement passé à côté de tout cette...
Très bien, c'est bon Grégoire, merci.
Alors, non, je voulais juste quand même, là où je suis plus intransigeant, c'est un peu sur le style, parce que je l'ai trouvé le style un petit peu chargé, justement.
Très bien, bah rajoutez-en, c'est parfait. Bon, très bien, Laura Sanchez en Suisse, êtes-vous d'accord ?
Oh là 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 là. Eh bien, pour moi, tous ces personnages féminins sont en fait plutôt attachants, tout comme l'idée que les liens entre elles leur permettent de grandir et de s'épanouir chacune de leur côté. Mais pour moi, ce roman manque un peu d'action, en fait. Ou alors l'action est trop implicite pour être vraiment le fil rouge de cette histoire, et du coup, ça tourne un peu en rond à la longue.
Bon, pourtant, il y a plein de choses positives dans ce livre, Valérie Cohen. Il y a plein de réflexions qui nous permettent de porter un regard sur nos vies quotidiennes et sur les hasards qui nous envahissent, qui nous encombrent parfois d'ailleurs un peu. Vous voulez réagir peut-être, oui.
L'action, en fait, elle se passe derrière les événements. J'ai voulu un petit peu montrer dans une sorte de huis clos les fils invisibles qui peuvent exister entre certaines personnes et certains événements. Et effectivement, c'est comme les pièces d'un puzzle qui s'embriquent.
François-Olivier Gisbert vous soutient. Vous avez un supporter à côté de vous.
Et Catherine Servier aussi.
On va écouter la BO du roman, Valérie Cohen. On vous a demandé quelle musique illustre le mieux votre livre, la bande originale, comme dans un film. Et vous avez choisi le groupe belge Puggy. On écoute un extrait et vous nous expliquez juste après. Do you remember when nobody knew me? Man, was life so simple then? Ooh, but you knew my name, and Lord knows it will never sound the same again. I will stay with you, I will stay with you, I will stay with you. How I needed you, how I needed you, how I needed you. Peggy avec How I Needed You. Pourquoi ce titre, Valérie Cohen ?
Groupe belge que j'adore. Lorsque vous regardez le clip de cette musique, vous avez l'impression de voir la vie en raccourci. Un couple qui se rencontre, qui se sépare, qui se remet, la mort, la vie, les amis. Donc, beaucoup d'émotions et j'aime écrire en musique.
Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions dans ce livre aussi, avec des séparations difficiles. C'est très compliqué de quitter l'autre avec douceur, de sortir de sa vie. Comme ça, on sort de la vie de sa compagne ou de son compagnon. Et il faut le faire avec le plus de douceur possible, quand on a un peu de sentiment en tout cas. C'est ce qui arrive à vos deux personnages.
Oui, parce qu'en plus, quitter quelqu'un, quitter un personnage dans une vie ne signifie pas qu'il n'est plus à côté de vous. La présence physique n'est sans doute pas là, mais la personne, le souvenir, tout ce qu'elle a pu nous donner ou nous prendre continue à nous accompagner.
Oui, parce que vous dites que le malheur ne se contourne pas, il s'apprivoise.
Mais on peut faire autant de pensées positives qu'on veut, les événements sont ce qu'ils sont, juste la manière dont on va les vivre peut être abordée différemment.
Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait illusion? On fait semblant? Il y a un personnage qui dit ça, je crois que c'est Adèle qui dit ça dans le livre. On triche un peu avec la vie en faisant illusion.
Nous sommes tous en train de tricher à tout moment, me semble-t-il, avec nous-mêmes, avec nos proches.
Vous trichez là?
Non, je pense pas. Non, je ne pense pas.
Quand je veux dire tricher,
je veux dire par là que on fait bonne figure, des événements qui devraient nous faire grincer les dents, on essaye d'en voir le positif. C'est tricher avec une certaine réalité, mais finalement. Tout est illusion et on fait de ça de notre réalité. C'est la même chose avec les pensées ou avec les gens qu'on aime.
François-Olivier Gisbert, vous trichez?
Je suis pas trop d'accord parce que je pense que les échecs et les drames souvent nous font revivre. Vous savez ce que disait Nietzsche,
tout à fait.
Ce qui ne vous tue pas vous renforce. C'est une phrase absolument merveilleuse. Donc vous êtes d'accord?
Je suis tout à fait d'accord avec
ça. Oui, parce que c'est une histoire d'ego aussi. C'est ça. C'est ce que vous racontez. Finalement, on n'agit pas par altruisme. On agit par ego. Quand on est dans la douleur, dans la souffrance, dans la séparation, on tient le choc, on surmonte parce que c'est une histoire d'ego.
Pas que d'ego, mais en tous les cas, je crois qu'il faut avoir une force de volonté étonnante et qu'il faut vraiment bien se connaître et être aligné pour pouvoir réagir dans l'amour, dans l'ouverture, quand on est en plein dans la douleur.
Allez, le mot de la fin, c'est pour un libraire, vous le savez. C'est la douce belge Déborah Damblon qui a cet honneur aujourd'hui. Déborah.
Merci Emmanuel. Sans vouloir faire un raccourci un peu trop simple, Valérie, moi j'ai juste envie de vous dire que votre roman, il m'a plu. Il m'a plu, mais vraiment comme un très bon cake au chocolat. Et c'est une belle et bonne valeur sûre. Bien sûr, c'est simple, mais c'est doux, c'est réconfortant. Et puis, c'est pas trop compliqué, mais dans le très très bon sens du terme.
Voilà Valérie Cohen, vous avez séduit nos libraires,
merci
sauf
Déborah.
Un. C'est toujours le même, désolé hein, aujourd'hui.
Mais c'est comme moi, c'est pareil, il nous en veut à tous. Hein.
Je ne sais pas ce qu'il a aujourd'hui.
Mais il est sympa quand même.
Il est sympa, ouais. Il est très sympa, c'est vrai. On va terminer avec une phrase que vous écrivez Valérie Cohen, l'art du hasard, c'est le secret d'une vie épanouie. On va méditer sur ce sujet tout le week-end. Merci beaucoup, merci Valérie. Oui Catherine Salvia.
Il y a aussi celle de Bernanos, le hasard.
Encore Bernanos.
Oui, toujours Bernanos.
Allez-y.
Le hasard, c'est peut-être la logique de Dieu.
Ah oui, alors là, du coup, silence.
Ou Einstein qui disait que le hasard, c'est Dieu qui voyage incognito.
Le hasard a un goût de cake au chocolat, ça c'est de Valérie Cohen et c'est aux éditions Luis Wilquin. Merci Valérie.
Merci à vous.
La librairie francophone, Emmanuel Guérald.
Avant de conclure, coup de projecteur sur un artiste francophone avec Clara Luciani.
J'irai où je dois.
Clara Luciani avec un extrait de Comme toi que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. À la réalisation, Céline Hila avec Mehdi Fatah, Djoubaka, la prog musicale. Merci François-Olivier Gisbert.
Merci
Catherine
surtout.
Salvia, merci. Brigitte Fossé, Valérie Cohen. À très bientôt. Merci. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Laure Grand-Besançon, Christophe Magère et Marie-Louise Beau en France, Martine Béguin-Felet et Annick Chouin en Suisse, René Mikkels avec Valérie Leput en Belgique, Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. La semaine prochaine, clin d'œil au cinéma en ce début du Festival de Cannes avec Lisa Asuelos. Nous serons aussi avec Claire Castillon pour parler des ados, entre autres. Bonne semaine, bon week-end, à bientôt. Salut.